Vous écoutez, on lit pour vous.
Des subventions aux particuliers plus généreuses que prévues. Un texte de Mégane Foy, paru le 2 août 2025 dans la presse. On connaît maintenant la forme que prendra la nouvelle subvention d'Hydro-Québec pour l'achat de panneaux solaires, une année après avoir été annoncée. Au total, elle pourra représenter jusqu'à 40 % du coût total des panneaux, un changement significatif pour la facture des consommateurs. La Société d'État en a dévoilé les détails à la toute fin d'un communiqué diffusé jeudi le 31 juillet. À partir de 2026, le nouvel appui financier pour l'achat de panneaux solaires sera de 1 $ pour chaque kilowatt installé, sous réserve d'un maximum de 40 % du coût total d'installation, détaille Hydro-Québec. Cette aide pourrait représenter 5 000 $ pour une maison de taille moyenne. En général, cette dernière comprend un projet de 10 à 15 panneaux solaires et la facture totale s'élève entre 15 000 et 20 000 $, précise Jean-Pierre Croteau, directeur offre énergétique résidentielle chez Hydro-Québec. À première vue, c'est mieux que ce qui avait été avancé. Alors, c'est très bien accueilli de notre côté, a réagi Frédéric Lavoie, directeur général chez Alt Énergie. En août 2024, la Société d'État avait laissé entendre que le montant de la subvention était à évaluer, mais qu'il pourrait potentiellement représenter environ de 10 à 15 d'une installation. Mais d'après Énergie solaire Québec, un organisme ayant pour mandat de promouvoir l'utilisation de l'énergie solaire au Québec, cette proportion n'était pas assez intéressante aux yeux des consommateurs en quête de rentabilité. Peu importe le type de subvention, si on a un retour d'investissement pour l'installation de panneaux solaires qui est en deçà de 10 ans, on est winner, là ça va marcher, avait expliqué le président de l'organisme, Patrick Goulet, lors d'une rencontre avec Hydro-Québec à la fin mai. Il fallait vraiment que l'objectif de la subvention, ça soit ça, a-t-il réitéré en entrevue avec la presse. Prenons cet exemple. Le site web d'Hydro-Québec présente un cas type d'installation qui comprend 16 panneaux solaires photovoltaïques de 300 watts chacun. Avec une subvention de seulement 15 %, le projet serait rentabilisé seulement après environ 23 années. Or, toujours selon la plateforme de la Société d'État, la durée de vie des panneaux solaires est de 20 à 30 ans et celle du toit de 20 ans. Certains usagers devraient donc devoir remplacer leurs panneaux ou même déménager avant même de récupérer leur investissement. En couvrant ainsi au maximum 40 % de l'installation, le seuil de rentabilité des panneaux photovoltaïques serait réduit de près de moitié, soit autour de 10 à 12 ans, a précisé Hydro-Québec. Après avoir analysé l'impact de la subvention en se basant sur différentes hypothèses de coûts et d'augmentation des tarifs d'électricité, Énergie solaire Québec considère que l'objectif pour le secteur résidentiel n'atteint pas sa recommandation, soit de moins de 10 ans. Le nombre d'années avant d'obtenir un retour sur son investissement dépend cependant de plusieurs facteurs comme la technologie des panneaux, le fabricant choisi ou encore l'espace disponible sur le toit. Et les batteries? Le dévoilement de la forme des subventions était très attendu au sein des entreprises œuvrant dans le solaire au Québec. Le prix, c'est carrément l'enjeu numéro un, souvent pour les clients. On avait toujours des questions à ce sujet, explique M. Lavoie de chez Alt Énergie. Sébastien Caron, président et fondateur de Volt Énergie, qui conçoit et fabrique entre autres des systèmes d'énergie solaire depuis 23 ans, voit d'un bon œil la subvention. Il la considère même comme intéressante pour quelqu'un qui cherche à être rentable avec un système photovoltaïque simple. Par contre, si on vient mettre des batteries là-dedans, là c'est plus cher, souligne-t-il. L'achat de batteries n'est pas essentiel au bon fonctionnement des panneaux solaires, mais Leur ajout permet de stocker l'énergie produite lors de grandes périodes d'ensoleillement et, ultimement, d'éviter les pannes d'électricité et de réduire la pression sur le réseau d'électricité. Pour Hydro-Québec, l'objectif principal est atteint avec cette annonce. On voit que les gens commencent à démontrer un certain intérêt pour le stockage, mais c'est vraiment encore dans ses débuts, a précisé Jean-Pierre Croteau. Demande à venir en 2026. L'objectif d'Hydro-Québec? 125 000 installations d'ici 2035. Pour l'instant, moins de 1 000 résidences ont déjà des panneaux solaires. Notre souhait, c'est que les gens embarquent, mais on ne veut pas non plus créer un raz-de-marée parce qu'on a besoin que le marché se structure, indique M. Croteau. En mai dernier, les entreprises en installation de systèmes photovoltaïques avaient exprimé leurs inquiétudes quant à cette possibilité. Une formation est donc préparée, en coulisses, laquelle permettra d'obtenir une accréditation pour installer des panneaux solaires, a confirmé M. Caron. Il va y avoir des profiteurs aussi, qui vont s'improviser installateurs solaires du jour au lendemain. C'est ce qu'on veut éviter, dit Sébastien Caron. C'est possible que plein de produits sortent sur le marché, mais qu'ils n'aient pas les certifications qu'Hydro-Québec demande. Il va falloir être vigilant et bien éduquer les gens. Autre élément. La subvention s'applique aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Pour un bâtiment commercial moyen, l'aide pourrait représenter une aide totale de 40 500 $, note Hydro-Québec dans son communiqué. Énergie solaire Québec croit qu'il serait préférable que la subvention pour ces types de bâtiments soit davantage adaptée à leurs besoins spécifiques. Actuellement, l'approche taille unique ne nous semble pas être la plus efficace, a conclu Patrick Goulet. C'était « Des subventions aux particuliers plus généreuses que prévu », un texte de Mégane Foy paru le 2 août 2025 dans la presse.
La cinquième maladie fait un retour en force au Québec. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 11 juin 2025 dans Le Devoir. Après la coqueluche et la grippe, une autre infection respiratoire revient en force au Québec, la cinquième maladie. Le nombre de visites à l'urgence liées à cette infection a doublé cette année par rapport à l'an dernier, selon des données obtenues par Le Devoir auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux, MSSS. La cinquième maladie, ou l'érythème infectieux, est causée par un virus transmis surtout par voie respiratoire, soit par la toux, les éternuements ou les gouttelettes produites par une personne infectée qui parle. Elle touche surtout les enfants et se manifeste généralement par des rougeurs sur la peau et de la fièvre. Elle tire son nom du fait qu'elle a été la cinquième maladie infectieuse provoquant des éruptions cutanées à être découverte. Généralement bénigne, cette infection peut toutefois entraîner des complications chez les gens immunodéprimés, ceux qui ont des maladies du sang et les femmes enceintes qui peuvent le transmettre à leur fœtus. Une personne qui contracte la maladie est cependant immunisée à vie, souligne le docteur Christian Renaud, médecin microbiologiste infectiologue. Au Québec, il n'existe pas de registre complet des cas de la cinquième maladie, car elle n'est pas à déclaration obligatoire. Toutefois, les données d'urgence montrent une hausse des consultations liées à cette infection. Entre janvier et la mi-mai 2025, il y en a eu 123 contre 63 pour la même période en 2024 et 59 en 2023. L'âge des patients n'est pas précisé. Du côté des Québec, les produits sanguins sont systématiquement testés pour détecter la présence du virus responsable de cette maladie, car il peut se transmettre par le sang. En 2024-2025, le nombre de donneurs de plasma positifs est de l'ordre de 10 à 20 fois supérieur aux années précédentes, constate le docteur Christian Renaud, qui est aussi directeur médical microbiologie et épidémiologie de l'organisme. C'est connu qu'il y a des éclosions cycliques de la maladie tous les 4 ou 5 ans, précise-t-il. Le retour en force de cette infection pourrait aussi s'expliquer par le fait que durant la pandémie de COVID-19, les mesures sanitaires ont réduit l'exposition de la population à plusieurs virus respiratoires, y compris celui-ci. On observe donc un plus gros sommet cette année, car un plus grand nombre de personnes sont désormais susceptibles de l'attraper. Le docteur Renaud s'attend toutefois à un retour à la normale l'an prochain, mais ça demeure difficile à prévoir, ajoute-t-il. Des risques réels pour certaines personnes. La cinquième maladie est généralement sans danger, mais certains groupes de la population courent un risque important s'ils la contractent. Par exemple, les femmes enceintes qui n'ont jamais été exposées au virus peuvent le transmettre à leur fœtus. Celui-ci peut alors développer une anémie sévère, entraînant une défaillance cardiaque. Dans ces cas, le seul traitement qui existe est une transfusion sanguine directement au fœtus par voie intra-utérine, relève le docteur Renaud. Les personnes atteintes d'une maladie du sang sont également vulnérables à cette infection respiratoire, en particulier ceux dont la condition affecte les globules rouges, car la cinquième maladie peut entraîner un arrêt temporaire de la production de ces globules par la moelle osseuse, détaille le docteur Yves Pasteur, hématologue et professeur au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Mamoudou Camara, un résident de Châteauguay âgé de 43 ans, raconte vivre avec une grave maladie du sang, l'anémie falciforme. Cette maladie génétique et héréditaire déforme les globules rouges et complique le transport de l'oxygène vers les organes. Elle rend aussi ce type de globules rigides et peu flexibles, ce qui peut entraîner des blocages dans les vaisseaux sanguins. Je fais souvent des crises de douleur très importantes. Je suis aussi très sensible aux différentes infections virales, souligne M. Camara. La hausse des visites à l'urgence pour la cinquième maladie cette année l'inquiète donc. Je fais face au quotidien à la crainte d'attraper ce genre de virus. Mais en même temps, je dois vivre avec cela, dit-il d'un ton posé. À l'heure actuelle, il n'existe toutefois pas de vaccin pour permettre aux gens comme Mamoudou Camara de se protéger de la cinquième maladie, souligne le docteur Renaud. Devrait-on en développer un, ou bien des médicaments qui s'attaquent au virus? Avec le retour en force de l'infection, je crois que c'est une occasion de sensibiliser nos chercheurs et scientifiques à ce sujet, dit-il. C'était « La cinquième maladie fait un retour en force au Québec », un texte de Florence Morin-Martel paru le 11 juin 2025 dans Le Devoir.
Et si vos cheveux empêchaient de vous soigner, un texte d'Agathe Tupula-Kabola paru le 6 août 2025 dans La Presse. Agathe Tupula-Kabola est orthophoniste, chroniqueuse, conférencière et auteure, chargée de cours et chargée de clinique à l'Université de Montréal. S'il existe une certaine pression culturelle favorisant les cheveux lisses, il y a assurément des disparités dans le domaine médical, où la norme blanche laisse bien des angles morts, observe Agathe Tupula-Kabola. Il y a 3 ans, j'ai fait un big chop, l'expression utilisée pour désigner le moment où l'on rase ses cheveux traités chimiquement pour repartir à zéro avec sa texture naturelle. Ce fut à la fois libérateur et confrontant. Du plus loin que je me souvienne, j'ai été complexée par mes cheveux. Il y avait la douleur du démêlage brutal de ma tignasse avec un peigne en bois aux dents fines et pointues, et tous ces dimanches soirs qui me semblaient interminables consacré à laver et coiffer mes cheveux pour la semaine. Alors non, je ne juge pas les femmes noires qui se défrisent les cheveux. Ce serait franchement hypocrite de ma part, puisque j'ai moi-même fait appel au défrisant pendant la majeure partie de ma vie, dès l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, je garde mes cheveux naturels, sauf quand je les tresse avec des extensions ou des greffes. Comme quoi, même mon big shop n'a pas été un grand saut dans l'inconnu, mais plutôt un saut à demi amorti. Il faut dire que le modèle de la femme noire au naturel, dans les sphères du pouvoir ou de la culture populaire, reste rare. Oprah, Michelle Obama, Beyoncé, toutes ont fait carrière en arborant une chevelure lisse. Ce n'est pas une critique, juste un constat. Peut-être est-ce pour cela que garder mes cheveux naturels me semble parfois être un acte de résistance fatigant. Mais cette pression esthétique n'est pas qu'une question d'image. Elle peut avoir des effets bien concrets sur la santé. Le 18 octobre 2024, le journal Le Monde rapportait une alerte du ministère français de la Santé sur les lissages brésiliens à base de kératine. L'acide glyoxylique, un des ingrédients actifs, aurait entraîné des cas d'insuffisance rénale aiguë. Pourtant, ces produits sont toujours vendus en ligne ou utilisés dans des salons. Ici, au Québec, l'information a à peine fait surface. Quelques mots à la radio, puis silence radio. La norme blanche. Le silence, justement, est aussi assourdissant quand on s'intéresse aux biais raciaux dans le domaine médical. Des cheveux aux soins de santé, il n'y a qu'un pas, ou plutôt un fil conducteur. La norme blanche. Prenons les casques d'électroencéphalographie, EEG, utilisés pour diagnostiquer des troubles neurologiques. Ces dispositifs ont été conçus pour des cheveux lisses. Résultat, les personnes aux cheveux frisés doivent parfois se raser une partie de la tête pour qu'on puisse procéder à un examen. Imagine-t-on demander cela à une femme blanche dans un contexte d'urgence? C'est à ce genre de questions qu'a voulu répondre Arnelle Étienne, étudiante en génie d'origine haïtienne, en inventant CEVO, un appareil EEG pensé pour les cheveux frisés. Le résultat? Un signal 18 fois plus clair qu'avec l'équipement traditionnel. Une innovation nécessaire, née d'un angle mort du système. Ces angles morts sont nombreux. Les oxymètres de pouls, largement utilisés durant la pandémie de COVID-19, donnent des lectures moins fiables chez les personnes à la peau foncée. Résultat, des patients noirs ou hispaniques ont reçu un traitement inapproprié ou trop tardif. Même problème pour les manuels de médecine où les images de peau foncée sont rares. Résultat, une maladie comme la maladie de Lyme, qui apparaît en cercle rouge sur une peau pâle, passe sous le radar quand elle prend des teintes violacées sur une peau noire. Même les bébés ne sont pas épargnés. Le score Apgar, utilisé à la naissance pour évaluer les signes vitaux, repose sur des critères de couleur. Un teint rose est bon signe, un teint bleuté, alerte. Mais sur une peau foncée, on improvise. Les disparités vont plus loin. Au Canada, on manque de données sur les communautés noires pour 15 des 20 cancers les plus fréquents. On sait pourtant qu'aux États-Unis, les femmes noires sont plus à risque de formes agressives de cancer du sein ou du col de l'utérus. Mais ici, sans données, pas de ligne directrice adaptée. L'humilité culturelle. En tant qu'orthophoniste, je constate aussi ces biais dans mon domaine. Les repères de développement du langage sont basés sur des études menées principalement auprès de bébés caucasiens issus de milieux favorisés. Quand on applique ces normes à tous les enfants, sans nuance culturelle, on risque de poser des diagnostics erronés ou de passer à côté de véritables besoins. Par exemple, dans certaines cultures, éviter le contact visuel est un signe de respect. Ici, c'est parfois interprété comme un signe de trouble du développement. Le problème est systémique. On juge du développement, du risque, du danger, en se basant sur une norme occidentale, blanche, souvent masculine. Et cette norme devient la grille à travers laquelle on regarde tout le monde. Pourtant, la majorité des enfants dans le monde ne grandissent pas en Occident. Il est temps de remettre en question cette vision monoculturelle des soins de santé. Des pistes de solutions existent. Intégrer dans les cursus universitaires des contenus sur le racisme médical et l'humilité culturelle, comme le fait l'Université de Calgary en sciences infirmières. Soutenir la recherche menée par et pour les communautés sous-représentées. Former les professionnels à reconnaître leurs angles morts. Fournir du temps et des ressources pour des soins culturellement sécurisants. En 2020, après la mort de George Floyd, on a promis des changements. On a dénoncé, on a débattu. 5 ans plus tard, il faut aller au-delà des paroles. Car la discrimination ne se manifeste pas toujours par un genou, sur un cou. Parfois, c'est un cheveu frisé qu'on ignore, un appareil mal calibré, un regard biaisé. Et tout cela peut aussi coûter des vies. C'était « Et si vos cheveux empêchaient de vous soigner », un texte d'Agathe Tupula-Kabola, paru le 6 août 2025 dans la presse.
Promouvoir les médias en ligne en Haïti. Un texte d'Annick Chalifour, paru le 8 juillet 2025 dans l'Express.ca. À la suite de ma formation virtuelle à la presse écrite numérique livrée auprès de membres de l'Union des journalistes du Nord d'Haïti en mars-avril 2024, l'Association des médias en ligne du Nord-Ouest d'Haïti, AMELNO, m'a contacté pour leur offrir une formation similaire. Le tout s'est bien déroulé du 28 avril au 9 juin 2025. L'AMELNO, sise à Port-de-Paix, a été fondée le 14 mai 2024 par 6 entreprises médias en ligne. Aldaï Show, France Hits Show, Média Toute Côte, parenthèse Média, Port-de-Paix Spotlight, Lake Média. Nous visons principalement à promouvoir les médias en ligne du nord-ouest d'Haïti par le biais d'un encadrement leur permettant de créer des contenus professionnels tels que des formations en ligne sur mesure, cite le coordonnateur de l'AMELNO, journaliste entrepreneur, propriétaire de Lake Média, Mario J.N. Junior Valmé. Tout en appuyant la liberté de presse des médias en ligne dans le département du nord-ouest d'Haïti. Mario J.N. Junior Valmé est également propriétaire du complexe Gamard, membre de la Chambre de commerce et d'industrie du nord-ouest. Formation à l'écriture journalistique. En conclusion de cette formation, les participants estiment être mieux outillés sur le plan de l'écriture journalistique numérique. Ils ont davantage l'envie d'écrire. La technique de la rédaction de la nouvelle est mieux comprise, témoigne Mario J.N. Junior Valmé. Voici un aperçu du contenu de cette formation virtuelle inspirée de mon expérience comme journaliste à l'Express.ca et ancienne professeure au programme Relations publiques et journalisme au Collège La Cité de Toronto. Les règles de base de l'écriture de presse, les genres rédactionnels, les techniques de rédaction journalistique IA sécurité, la collecte, vérification des informations, les conseils, outils pour une belle écriture de presse, le pitch professionnel. Collaboration Média Nord-Sud. De plus, les membres de la Melno ont participé à une séance de formation virtuelle sur les techniques de rédaction journalistique. J'étais panéliste, dédié aux médias haïtiens le 30 avril dernier, proposé par le Bureau des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. Mentionnons que Guillaume Lorrain, directeur général de la coopérative radiophonique torontoise CHOQ-FM 105,1, a livré ce 2 juillet une excellente présentation virtuelle portant sur le journalisme radio, selon Joël Lorquet, écrivain, ancien journaliste, fondateur conseiller de la Fondation Lorquet pour une nouvelle Haïti, Folona, œuvrant au Bureau des affaires publiques. À propos du nord-ouest d'Haïti, le département du nord-ouest d'Haïti compte une population actuelle estimée à 121 220 habitants. L'agriculture et le commerce constituent ses principales activités économiques. En outre, le Nord-Ouest compte plusieurs ressources naturelles telles que le calcaire, le gypse, l'argile et la craie, utilisées pour la production de ciment et autres matériaux de construction. Les défis locaux préoccupants incluent la gestion des déchets, certains projets d'infrastructures importants tardifs tels que les routes et les façades portuaires à renforcer, les risques d'inondations récurrentes, la nécessité d'aménagements écologiques plus solides, cite Mario J.N. Junior Valmé. Le potentiel touristique est également inexploité. Les attraits naturels et historiques ne sont pas suffisamment promus et dépourvus d'investissements, déplore-t-il. Stabilité socio-économique à risque. Jusqu'à aujourd'hui, le département du Nord-Ouest n'est pas directement affecté par la situation de grave insécurité persistante en Haïti. Cependant, le département reste menacé. Plusieurs groupes armés, notamment le gang Tibois d'Hommes, se sont installés dans l'Artibonite frontalier au département du Nord-Ouest. Les postes de péage installés par ces derniers sur les marchandises qui rentrent dans le Nord-Ouest font grimper les prix. La stabilité socio-économique de notre population se retrouve donc à risque, rapporte M. Valmé. C'était « Promouvoir les médias en ligne en Haïti », un texte d'Annick Chalifour paru le 8 juillet 2025 dans l'Express.ca.